Gisèle Brun
et Patrick Subreville vous présentent
Les Aventuriers des Lettres.
Bonjour, bonjour Gisèle.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Eh bien, nous nous retrouvons en ce mois de novembre avec une introduction un peu surprise, un peu historique. Je vous lis.
Très historique.
Le destin de l'Allemagne au début des années 30 s'alimente à plusieurs sources. Mais ce maelstrom ne faisait pas de l'avènement au pouvoir des nazis une fatalité, loin de là. C'était même l'hypothèse la plus probable. Allons voir cette première source. C'est sans doute la plus forte. Le refus par l'opinion allemande de la défaite de 1918 et donc le rejet viscéral du traité de Versailles. Celui-ci est infiniment plus dur à l'égard de l'Allemagne que les conditions imposées par Bismarck en 1871 à la France, alors que celle-ci avait été en partie occupée, à la différence du territoire allemand sur lequel, le 11 novembre 1918, aucun soldat allié n'avait posé le pied. Voilà, si vous le permettez, cette introduction que l'on doit à la plume de M. Alain Minck dans un essai remarquable, mais qui est passé assez inaperçu malheureusement, qui date de 2013 chez Grasset et intitulé « Vive l'Allemagne ». Vive l'Allemagne, il a eu le courage de le dire, lui qui quand même dans sa famille avait beaucoup souffert par ses origines juives, polonaises. Il a quand même discerné le bon vin, si vous voulez. Hein. Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui ?
Alors, je crois qu'on va parler du traité de Versailles, en fait. C'est ça, le traité de Versailles, on va parler. Parce qu'il y a eu, le 11 novembre, il y a eu l'armistice, 1918. Mais après, il a fallu signer le traité de paix.
Ah, c'est autre
Donc,
chose.
Alors, ça s'est passé... Alors, le lieu n'a pas été pris au hasard, ni la date non plus. Parce que ça s'est passé au château de Versailles, et ça s'est passé le 28 juin 1919. Alors, pourquoi le 28 juin particulièrement ? Voilà, parce que c'est l'anniversaire de l'attentat de Sarajevo.
Tout à fait, 1914.
Voilà, 1914.
Et 4 ans de drames se sont écoulés.
Parce que c'est ce qui a commencé la guerre.
Eh oui. Donc 1918-1919, c'est l'année de la paix, si vous voulez.
On va essayer,
après la guerre, de s'occuper de la paix, de décider
de la paix.
On va essayer. Et pourquoi Versailles, alors ? C'est une question. Pourquoi Versailles ?
Parce qu'on avait, en 1871, on avait signé, là, au château de Versailles.
C'est pas nous, c'est les Prussiens.
Oui, c'est les Prussiens, voilà.
Nos amis Prussiens étaient venus chez nous, comme ça. On n'avait pas été capable de les arrêter.
Mais non.
Parce qu'ils prenaient le train. Ils étaient venus en train à la frontière.
Hein. Déjà, ils se déplaçaient en train.
Oui, pas en TGV, non. Mais ils avaient déjà des trains qui marchaient très bien. Et donc, ils sont arrivés... Et au château de Versailles.
À la Galerie des Glaces, en plus.
À la Galerie des Glaces. Et pourquoi au château de Versailles ? Parce qu'ils se souvenaient, en bon historien qu'ils sont, je dis qu'ils sont toujours, ils se souvenaient du roi Louis XIV, du roi Soleil.
Avec les guerres qu'on avait eues.
Il y avait eu les guerres. Louis XIV avait fait la guerre un peu partout en Europe, pour le prestige, et puis il fallait gagner du terrain et tout, et tuer beaucoup de monde en même temps. Et alors, personne à Berlin n'avait oublié ce triste moment. C'était la guerre du Palatinat.
Oui, c'est ça, voilà.
La guerre du Palatinat, ça nous met l'année avec le maréchal de Turenne, quand même. 1674, c'est le premier ravage du Palatinat. Bon, la guerre, nous savons, on n'y va pas de main morte. Mais là, ils y sont allés...
Gaillardement.
On a été gaillardement, oui. Enfin, il n'y a pas de frontière pour l'horreur, on va dire. Et ils sont revenus ensuite, on appelle ça le deuxième sac. Le sac de 1689. Là, c'est le ministre Louvois Et c'est le maréchal Demélac qui a mené ses hordes, on va dire, là c'était des hordes, dans le Palatinat, et qui, par exemple, a pris d'assaut la belle ville d'Heidelberg, avec le château, le fameux château, dont les ruines n'ont pas été retouchées. Et ça, dans l'âme allemande, ça a été vraiment une tragédie.
Blessure.
Ça, oui, et il y avait un contentieux franco-allemand qui n'a été réglé que grâce à la construction européenne, quand même.
Oui, c'est ça.
Je me souviens que chaque fois, dans beaucoup de familles où je suis passé outre-Rhin, on me parlait toujours d'Heidelberg et de cette époque-là. Bon, eux, ils n'avaient pas fait que du bien. Hein. Bon.
Non.
Mais enfin, pour vous montrer que cette histoire de guerre du Palatinat, de destruction, avec ces deux guerres, et Demélac, et quand en Allemagne, naguère, on voulait appeler son chien d'un nom un peu pas très gentil, on l'appelait Mélac. J'ai connu deux, trois Mélac,
ah oui,
moi.
D'accord.
Mais c'était les chiens. On aimait le chien, mais on l'appelait Mélac. C'était gentil, quoi.
C'était rentré dans le nom commun.
Oui, et grâce à l'Europe, eh bien, ce contentieux a été réglé.
Aboli.
Mais j'ai encore eu des échos. À Heidelberg, ils n'ont pas oublié. Bon, bref. Et alors donc, les Prussiens vont signer, et ils vont signer pas le traité, non, ils vont proclamer l'Empire allemand.
Non, c'est ça, c'est à ce moment-là que l'Empire allemand était élevé.
Oui, parce qu'avant, il y avait la Prusse qui
c'est
était
ça,
immense,
voilà.
Et les États du Sud, la Bavière, de Bade, le Württemberg, et l'AS, etc., qui étaient à part. Il fallait un passeport pour aller de Munich à Berlin. Donc Bismarck a voulu, lui, tout regrouper et faire un empire énorme et mal placé au centre de l'Europe.
C'est ça.
Donc
c'est la naissance de l'Allemagne.
C'est la naissance de l'Allemagne.
Voilà.
Et donc ça se signe à la Galerie des Glaces.
C'est ça, voilà.
Parce qu'ils sont... Ben, ils sont maîtres, ils sont là, quoi.
Mais c'est eux qui avaient gagné la guerre, en plus.
Ils ont gagné la guerre, ils sont arrivés en 6 semaines. Mmh. Voilà. Même pas. 4 semaines, on va dire. Début août 70, et puis le 2 septembre 70, le désastre de Sedan, un petit mois, et les voilà chez nous, à Paris. Voilà. Ça s'étend donc, ça explique pourquoi ils sont à Versailles. D'où le traité de Versailles. Mmh. La conférence a eu lieu à Paris.
C'est ça.
Mmh. On a dit la conférence de Paris dans les hôtels. Les délégations étaient fortes. Il y avait beaucoup de délégations.
Il y avait quelques délégations, mais pour signer le traité de Versailles, il n'y avait que 4 principaux acteurs quand même.
Voilà, et puis les grands. Les grands.
Oui.
Alors,
il y avait...
Parlez-nous des grands.
Alors il y avait l'Américain Wilson.
Le président Wilson.
Le président Wilson.
Oui.
Il y avait l'anglais George Lloyd.
Alors Lloyd George.
Et
Lloyd
il y avait George, le français Clémenceau. Et il y avait l'italien
Orlando.
Qui partira ensuite
raisons avec la guerre.
Oui.
Il y avait la mer Adriatique, il y avait pas mal de problèmes intérieurs.
Oui, c'est ça. Lui, son problème, c'était de régler ce qui était autour de la mer Adriatique.
Voilà.
C'était son seul souci.
Voilà.
Alors que nous, on voulait récupérer l'Alsace-Lorraine.
Voilà.
Les Anglais, eux, ça les intéressait des colonies allemandes.
Oui.
Et puis le marché intérieur allemand aussi.
Et oui.
C'est ce qui les intéressait. Quant aux Américains, ils pensaient... Ils étaient un peu particuliers parce qu'ils étaient un peu rêveurs, je pense.
Ça tient un peu à la personnalité
de Wilson.
De Wilson. Ce président, qui était le 28e quand même des États-Unis, c'était un fils de pasteur. Sa mère était aussi fille de pasteur.
C'est ça, oui.
Il avait été élevé dans la foi stricte des presbytériens du Sud, d'un autre monde. Cela lui donnait un sens profond de la justice et de la morale et la conviction que Dieu attend de lui qu'il agisse pour le bien. C'est une autre philosophie. Cela nourrit une vision idéaliste du monde. On est loin de la guerre. Cet intellectuel croit à la force des idées. Donc c'était ses idées qu'il avait exprimées dans ses 14 points.
C'est ça.
14 points au mois de janvier 1918. 1918, et oui, de façon à préparer un peu la période post-guerre. C'était un universitaire, il enseigne la science politique à l'université de Princeton, il en devient directeur.
Et puis c'était une université à haut niveau quand même.
Voilà, c'est une
renommée.
Princeton est toujours Princeton, elle est dans le peloton avec Harvard et les grandes, Stanford, etc. Maintenant encore. C'est un degré élevé, comme vous dites. Il devient gouverneur de l'État du New Jersey et c'est une carrière qui va le mener à la Maison-Blanche.
C'est ça, voilà.
Donc c'est un homme, physiquement, c'est un homme un peu austère, lointain. Il surprend, on dit, par ses allures de clergyman.
Oui. Bon. Et ses attitudes d'apôtre, on dit aussi.
Et ses attitudes d'apôtre. On lui reproche son air supérieur, un discours parfois pontifiant. Bon, ben on est chacun comme on... Bref, c'est ce personnage, est très différent du président américain actuel, on va dire, comme quoi ça change. Les personnalités sont diverses, et bon, mais on s'enrichit avec la diversité, et non pas une pensée unique. Et puis donc, il arrive, c'est lui qui arrive, cet homme.
Oui, c'est le premier président, en fait, qui vient en Europe.
Oui, et pour les Américains,
c'est
une surprise.
Oui.
Parce que d'habitude, ils ne le font pas.
Oui.
Ils envoyaient leur ambassadeur.
Et là, non, c'est là lui-même qui vient.
Lui, il vient lui-même avec sa femme. Il débarque en Europe en décembre 1918. Il va en Irlande. Il y a peut-être des ancêtres, l'Irlandais, comme beaucoup d'Américains. Et oui, et puis après, il va voir les Anglais.
Pour un petit peu discuter avec eux, déjà. Peut-être dresser les débuts de une stratégie, peut-être.
Peut-être une stratégie, peut-être voir, comment on va s'arranger. Bien que parfois, ils étaient un peu hostiles, mais généralement, chacun voyait ses propres intérêts.
C'est ça,
Chacun voyait ses propres intérêts. Et donc, Wilson, il y a le Gallois, c'est un Gallois. Lloyd George.
Ah oui, Lloyd George, oui,
voilà,
c'est vrai. Oui.
Le renard argenté. C'était un Gallois, il était un peu caustique, un peu coriace. Il défendait l'Angleterre.
C'est ça.
Il défendait l'Angleterre qui, comme disait De Gaulle, l'Angleterre est une île. Ça, on le sait, mais ça veut dire beaucoup de choses derrière.
Oh. Puis ils avaient beaucoup de colonies. C'est vrai qu'avec le Commonwealth, ils pouvaient commercer avec le monde entier, si bien que ça les intéressait de récupérer les colonies allemandes.
Les fameuses colonies allemandes, et puis quand même aussi l'Allemagne était bien qu'un genou à terre. Il fallait pas quand même qu'elle ait les deux. On pensait à l'avenir.
C'est ça.
Et on pensait, en bon anglais qu'ils étaient, au commerce.
Oui, parce qu'ils pensaient commercer encore avec les Allemands.
Parce que les Allemands ont toujours été très nombreux, plus que nous. Rappelez-vous qu'en 14, la France, c'est 39 millions d'habitants.
Et les Allemands,
c'est 68-69.
Le double, oui.
Ouais. Mmh. Donc ça fait du monde à nourrir. Ça, c'est une image que nous avons proposée. Pourquoi Versailles? Et c'est le Versailles de l'histoire.
C'est
du
ça,
passé.
Voilà. Oui.
Et en 1919, le 28 juin, il y a la grande signature aussi, en grande pompe. Et il faut imaginer, vous connaissez la Galerie des Glaces?
Oui.
La Galerie des Glaces, il faut imaginer
ce
haut lieu, ces hauts lieux bondés de monde pour la signature, pour ces bondés de monde. Et alors, elle a lieu dans cette Galerie des Glaces, et c'est un événement, il y a une sorte de mise en scène dramatique. La délégation allemande, ce sont deux ministres, il y a Bux et Müller, mais qui ne sont pas du tout connus. Parce qu'en ce moment-là, c'est la révolution d'Allemagne.
C'est ça, c'est chez eux, c'est le chaos.
Ah oui, c'est le chaos en Allemagne. Ils n'ont pas eu la guerre chez eux, mais il y a la révolution qui arrive. Ça explique beaucoup de choses de nos jours, tout ça. Mmh. Attention, attention. Et alors, donc, ils vont être observés, ces Allemands, bien sûr, c'est par des milliers d'yeux. Tout le monde va regarder, on est bien content qu'ils signent, c'est bien fait, ils sont des vaincus.
Oui, c'est ça.
Et puis, il y a une image un peu horrible, on pense que Clémenceau a fait un peu ça.
Il
y a quatre ou cinq gueules cassées.
C'est ça, il les présente
devant la table où
les négociations
vont signer. Devant, il y a quatre gueules cassées, c'est-à-dire des blessés de la face, qui n'ont plus de nez, plus de bouche, plus d'yeux. des masques, c'est ça, et qui sont là devant ceux qui signent pour exprimer, pour rappeler le crime contre l'humanité.
C'est pour bien appuyer en plus,
et,
oui. Ouais.
Voilà, et ça, on l'a dit, mais après quand même, il a fallu du temps pour pouvoir digérer tout cela.
Et puis en plus, le territoire national était quand même bien meurtri chez nous.
Ben, nous avons été le champ de bataille, finalement.
Ben, c'est ça, voilà.
À savoir l'Est.
Le Nord et l'Est.
Le Nord et l'Est,
oui.
Dévasté, détruit, l'industrie à zéro.
À zéro, ouais, sur les genoux, oui.
La population civile aussi. Et donc cela exprime le fait que c'était difficile et que nous avions servi de champ de bataille pour nos soldats, pour les Anglais, tous ceux qui ont combattu. Vainqueurs ou vaincus, l'Est et le Nord de la France, allez faire un voyage dans l'Est ou dans le Nord, vous avez des nécropoles partout. Vous avez des nécropoles partout, immenses, ou alors plus petites, selon la mentalité de chaque peuple,
pays, voilà.
De chaque pays. Donc on l'a appelé la conférence de la paix.
Voilà.
Parce que après la guerre, c'est humain, on voulait
la paix.
Elle se réunit à Paris en séance plénière et on commence le 18 janvier 1919.
Voilà.
Et puis après, à 8 reprises. Autour de 27 délégations, 32 en comptant les dominions britanniques, se trouvent aussi des représentants de tous les pays ayant du côté des vainqueurs participé à la guerre. Ça fait beaucoup de monde. Et les vainqueurs se réunissent en cénacle privé. Entre aussi ministres des Affaires étrangères.
Oui.
On prépare le terrain. Et alors, on parle aussi, et c'est une révolution pour la France, d'habitude, la langue française était la langue des diplomates.
Officielle, voilà.
On ne parlait que le français. Mais, cette fois, vous avez...
Avec les Américains et les Anglais, on change de langue.
Alors là, Clémenceau, il a beau râler et tout, il faut être réaliste, ils ont demandé quand même que l'on parle la langue de ceux qui étaient venus nous aider à combattre. S'ils n'étaient pas venus, on était foutus. Fini. Donc, merci. Donc, on va parler français et anglais. Et c'est depuis que, maintenant, dans les grandes instances, tout se fait en anglais.
Voilà. C'est ça.
Anglais, français un peu, mais c'est l'anglais
qui prime.
Qui prime. Donc, il faut connaître l'anglais. Et maintenant, il faut mieux, si on peut, le maîtriser. Si on peut. Alors, donc, nous avons Clémenceau. Le père la victoire, mais on a dit que c'était le père la victoire en 18, et le père P-E-R-D, le père la paix ou le père la victoire
en
19.
Ça
a été difficile. Et les Allemands, ils ont une délégation, mais que l'on va faire venir finalement uniquement fin avril. Donc tout se joue sans eux.
Toutes les négociations. Ils n'assistent pas aux négociations.
Se font sans les grands vaincus.
Voilà.
Ça, ça a été une erreur. On l'a compris après.
Ouais.
Ça, ça a été très mal vécu par les Allemands.
Donc, c'était un traité excessivement dur pour eux, quoi. Ils ont appelé ça le diktat, je crois.
Ils ont appelé ça le diktat. Un diktat, c'est un texte qui est dicté sans que l'on râle ou sans qu'on veuille
riposter. On ne puisse réagir.
On ne peut pas réagir, rien du faire. Et donc, comme vous dites justement, il y a eu des clauses.
C'est ça.
Des clauses humiliantes. Il y a des clauses humiliantes. De votre belle voix, lisez-nous quelques clauses. Parce que chaque mot est important, c'est vraiment de la diplomatie.
Le montant des réparations s'élève à 132 milliards de marques.
C'est-à-dire environ 500 milliards d'euros. Donc c'est énorme.
L'Allemagne est amputée de 10% de sa population et de 13% de son territoire. Elle perd l'Alsace-Lorraine. Ah bah bien évidemment pour nous, il l'avait gagné en 71.
Voilà.
Une partie
on
de Schleswig.
On doit dire exactement l'Alsace-Moselle.
Ah, l'Alsace-Moselle, oui, au profit du Danemark. La Posthanie, le corridor de Danzig, c'est vrai qu'après l'Allemagne a été...
Oui, Hitler, c'est ça. Hitler va s'en servir.
Voilà, le corridor du Danzig au profit de la Pologne.
Oui.
Partagé de la Haute-Silésie avec la Pologne, malgré l'organisation d'un plébiscite aux résultats favorables à l'Allemagne. On ne va pas tout lire, peut-être, si.
Encore deux,
encore,
trois.
Ouais. La SAR est placée sous mandat de la SDN. Ah oui, parce que c'est...
Ça, c'est important.
C'est à partir de là que la SDN est née.
Eh oui, la Société des Nations.
C'est ça.
Dont le siège est à Genève.
Genève, voilà. Jusqu'au plébiscite de 1935. L'Allemagne perd toutes ses colonies.
Eh ben oui.
Et voilà. Qui deviennent des mandats de la SDN. L'armée allemande est limitée à 100 000 hommes.
Oui.
La rive gauche du Rhin est démilitarisée et l'Allemagne n'a pas le droit d'avoir des blindés ou une aviation militaire. Elle ne peut ni maintenir ni construire des fortifications. Interdiction pour l'Allemagne de s'unir avec les Autrichiens. Ah oui. Le Kaiser doit être mis en jugement pour offense suprême contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités.
Oui, bon, ils sont vaincus, merci. Ils sont vaincus, mais quand même, c'est un peu sévère.
Très sévère.
Et on ne pense pas au lendemain. On ne pouvait pas prévoir que... Mais on a commencé déjà à faire le lit du nazisme à Versailles.
C'est ça, voilà.
Et pour l'opinion publique, ne l'a jamais oublié. Et il y a quelques années encore, malgré la construction européenne et tout... C'était ancré. Et les représentants... Allemands apparaissent donc à Versailles. Oh, ils sont arrivés à Versailles, mais on les a mis à l'hôtel. On les a logés à l'hôtel, ils ne pouvaient pas sortir.
Ils étaient maintenus comme prisonniers.
Ils étaient prisonniers. Ils étaient écoutés, surveillés et tout. Et ça, ça a été mal perçu plus tard aussi.
Oui, mais ils ne les ont pas laissés assister aux négociations. Ils n'ont rien, pas eu le droit de se défendre.
C'était les vaincus.
C'est ça.
Vae victis,
ouais,
malheur aux vaincus, disaient les Romains. Et oui, c'était une autre... Il faut dire que par rapport à aujourd'hui, c'était une autre époque, une autre mentalité.
Oui.
Oui. Est-ce qu'on aurait fait aujourd'hui, est-ce qu'on aurait invité nos, peut-être comme au congrès de Vienne? Au congrès de Vienne, on avait invité les adversaires.
C'est vrai.
C'est mieux de s'arranger quand même un peu.
Dans la mesure du possible.
Pour ne pas recommencer.
Il faut, c'est vrai, avec intelligence. Il faut
voilà,
quand même,
avec souplesse et avec... c'est de la réelle politique, ça.
Oui.
Et donc, le ministre des Affaires étrangères, allemand, Ulrich von Brockdorff-Rantzau, lui, il voit ça, ben, la pilule est dure à avaler. Et elle n'a pas le droit, l'Allemagne n'a pas le droit à la parole.
Non, c'est ça.
Voilà. Elle n'est pas libre de ses mouvements, puisqu'ils sont coincés, ils doivent rester à l'hôtel. S'ils veulent quelque chose, on va les chercher pour eux.
Ouais.
Et ils sont vraiment séquestrés,
c'est
presque,
ça, voilà.
On va dire.
Ils sont prisonniers.
Et elle est réduite à prendre connaissance des conditions de paix, négociées sans elle. Et en somme, elle est mise devant le fait...
Accompli.
Elle est mise devant le fait accompli. Et ça va plus tard, quand Hitler va commencer un peu à s'agiter, il va ressortir tout ça.
Voilà.
Mais ça sera trop tard, parce qu'ils l'ont dans la tête. Et le peuple, ben, au début, le peuple va être mesuré, le peuple allemand, mais ils vont se rappeler, puis un peu de bourrage de crâne aussi.
Oui, beaucoup de bourrage de crâne.
Mais il avait des arguments, et nous les vainqueurs, on s'est mordu les doigts.
Non, on s'est un peu endormi.
Ah oui, oui. Eh bien oui, on ne peut pas être toujours en train de défiler. Et donc, 440 articles.
C'est ça.
Et il y en a un qui a été écrit surtout par les Américains,
c'est
l'article
132e.
231.
230, ah oui.
231, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il est important, les gouvernements alliés et associés déclarent, et l'Allemagne reconnaît que l'Allemagne et ses alliés sont responsables pour les avoir causés de toutes les pertes et de tous les dommages subis par les gouvernements alliés et associés. Et leurs nationaux en conséquence de la guerre qui leur a été imposée par l'agression de l'Allemagne et de ses alliés. Oui, ce sont des juristes et diplomates qui ont rédigé, Foster Dulles et Norman Davis. La phrase est très longue, il faut la reprendre, la disséquer. Donc, mais c'est cet article qui va être la pierre angulaire.
Oui. Mmh.
On reconnaît que l'Allemagne est bien responsable, crime contre l'humanité et tout. Rien de nouveau sous le soleil, finalement. Mmh. Rien de nouveau sous le soleil. Et on remarque que les gouvernements alliés et associés, les Anglais étaient nos alliés, les Américains sont nos associés.
Ah oui, c'est pas le même terme.
c'est un terme économique, c'est-à-dire ils voulaient être associés et non pas alliés. Associés, cela leur permettait de ne pas prendre part aux événements qui avaient été décidés avant leur arrivée.
Avant leur arrivée.
Voilà, c'était... Ben oui, c'était fin. Donc, cet article 231, plus tard, on va nous le ressortir. Et ils ne vont pas s'en prier, ils ne vont pas s'en priver. Et puis, ça sera très bien. Ça fait beaucoup d'agitation. Alors, on va prendre un peu de musique quand même. Hein. Gabriel Fauré, si vous voulez, une petite berceuse. On vous avait parlé qu'on allait s'endormir. Donc, voilà. On va s'endormir avec Fauré. Allez. Eh bien, avec Gabriel Fauré, nous avons eu un peu de repos dans ce tumulte diplomatique, parce que c'en était un. Diplomatique, ça veut dire qu'il y avait des diplomates. Il n'y avait plus d'uniforme.
C'est ça, il n'y avait pas de militaire.
Sauf un, le maréchal Foch.
Mais il était, oui.
Il s'agitait à cause de la rive gauche du Rhin.
Et parce qu'il voulait qu'on aille jusqu'à la rive gauche du Rhin.
Parce qu'il craignait notre voisin, notre charmant voisin. Il s'agitait, mais il n'avait pas, avec son tempérament fougueux, mais intelligent, mais doué, il voulait préserver, il ne voulait pas qu'il y ait une prochaine guerre.
Il avait prévu quand même. Hein,
d'ailleurs, il avait dit que l'armistice de 1918, c'était un armistice de 30 ans.
Et il ne s'est pas trompé.
Voilà. Et rappelons que l'armistice, ce n'est pas la capitulation, c'est le combat s'arrête.
S'arrête, voilà.
On rentre chez soi avec ses armes.
Voilà. C'est chacun, ce qui s'est, chacun chez soi.
Chacun chez soi. C'est ce qui s'est passé. Et en décembre, l'armée allemande, qui n'était pas vaincue,
non.
Elle est rentrée avec armes et bagages dans un ordre, mon Dieu, pas si mal que ça, grâce au général Gruner, qui avait la haute main sur le retour. Et en novembre 18, quelques jours après l'armistice, le président du Reich, de la Nouvelle République
de Weimar,
Friedrich Ebert, accueille les soldats qui ont traversé toute l'Allemagne à pied, bien sûr, à pied, mais qui n'est pas détruite comme la France. Puisque
mais bien évidemment, ils n'avaient pas subi les outrages de la guerre.
Pour eux, ce n'est pas la Grande Guerre.
Ah non.
Quand les Allemands parlent de grande guerre, ils parlent de la guerre de 70. 70,
ouais. Eh oui. Oh, bah déjà parce qu'ils avaient gagné. Hein.
Ils avaient déjà gagné.
C'est
ils
pour
avaient
ça,
déjà
aussi.
Gagné. Ils avaient gagné malheureusement trop vite. Et puis après, ça empoisonnait les relations, entre nos deux pays, à cause de l'Alsace surtout.
C'est ça.
Alsace-Moselle.
Mmh. Oui, on dit Alsace-Lorraine, mais non, c'est Alsace-Moselle.
C'est Moselle, oui. Ouais. Nancy était resté français, mais Metz, oui. Metz était la plus grande forteresse et citadelle allemande.
Ah, c'est ça, oui.
Metz. Mmh. Alors, que dit Ebert? Il est à Berlin et il les accueille. Ces soldats qui passent sous la fameuse porte de Brandebourg,
oui.
Que l'on va revoir la télé ces temps-ci, à cause de le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin.
C'est ça, la destruction du mur.
L'histoire,
ouais.
Elle revient, elle tourne. Camarades, c'est la révolution, camarades, bienvenue dans notre République allemande. Vos sacrifices restent sans précédent. Aucun ennemi ne vous a vaincu. Ce n'est que lorsque la supériorité des adversaires en hommes et en matériel fut devenue écrasante et de plus en plus oppressante que vous avez abandonné le combat. C'est clair. Vous avez enduré des souffrances infinies. Vous avez accompli des actes éternels, presque surhumains. Vous avez protégé votre patrie des invasions hostiles. Mmh. Vous avez tenu vos femmes et vos enfants, vos parents, loin du feu de la guerre meurtrière. Vous avez protégé les campagnes et les usines allemandes de la dévastation et de la destruction. Pour cela, la patrie vous remercie avec un enthousiasme débordant.
Eh ben voilà.
Voilà.
Allez.
Bon,
youpi.
Mais enfin, c'est des textes qui portent ça.
Mmh.
Et qu'est-ce qu'on relève? Aucun ennemi ne vous a vaincu. Bon. Et oui, et vous avez enduré...
Donc ça galvanisait quand même les troupes, ça.
Voilà, et bien c'est les galvanisés. Ils ne comprenaient pas tellement, ils avaient quitté un empire, ils arrivaient dans une république.
C'est ça.
C'est un changement.
Ouais.
Le pays n'était pas à feu à sang, mais enfin, à Munich, ça bardait, on va dire, dans d'autres coins d'Allemagne aussi, et les marins de la flotte de haute mer s'étaient révoltés.
Ouais, ouais.
Et puis eux, ils arrivent comme ça. Et vous n'avez pas été, personne ne vous a vaincu, vous êtes donc invincible.
Ah oh là là, mon Dieu!
Eh oui, personne ne vous a vaincu, vous êtes invincible. Et vous revenez, mais enfin, le pays avait souffert, il y avait la famine, parce qu'il y avait le blocus, et il fallait quand même nourrir tout le monde. Et donc, les revoilà. Et donc, on a vu l'article 231 qui va coller aux choses de l'armée et puis de l'Allemagne après la guerre.
Oui.
Après la guerre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons vu donc que la Sarre aussi, il y avait la question sarroise, et puis aussi, il y avait la Rhénanie.
Oui.
On revient à cette partie de la Rhénanie. Clémenceau aurait aimé en faire un territoire un peu particulier.
Un état un peu tampon,
comme la Belgique et la Hollande.
C'est ça,
surtout
voilà.
La Belgique a été un état un peu artificiel,
c'est ça, voilà.
Voulu par les Anglais pour qu'ils se protègent un peu des méchants Français ou du reste de l'Europe.
C'est ça, voilà.
La Belgique a été créée de toutes pièces.
Ah oui, oui.
De toutes pièces. Et alors Lloyd George, l'Anglais, n'a pas voulu que la Rhénanie ait un statut autre parce que les Anglais craignaient l'impérialisme français.
C'est ça, voilà.
Ils craignaient que la France ne prenne davantage d'importance et que l'Angleterre aussi donc ait à subir la France. Et Wilson, lui, ne voulait pas, pour la Sarre aussi, ne voulait pas que la France ait de l'importance en Sarre. En contrepartie, nous avons pu exploiter les mines de charbon de la Sarre, puisque nos mines en France, tout le terrain avait été labouré.
Tout était labouré.
La logique des Français était claire. Hein, ils voulaient se protéger. Foch voulait protéger avec le Rhin. Clémenceau voulait protéger aussi, comme il disait. Mais les Anglo-Saxons, qui avaient l'argument massue, à savoir leur présence et leur aide pendant la Grande Guerre. S'ils n'étaient pas venus, on aurait été fait, on ne s'en sortait plus. Mmh. On avait eu tellement de morts.
Oui, on était bien décimés.
On est bien décimés. Et l'Est et l'Ouest étaient un pays qui était détruit. heureusement qu'ils sont arrivés.
Ça a détruit quand même 4 empires.
Eh oui, 4 empires. La carte de l'Europe a été entièrement...
A été bien changée, oui.
Et maintenant, on s'en rend compte que ce n'est pas facile.
Ah oui, parce que l'Allemagne, la Russie...
L'Autriche-Hongrie. Et l'Empire ottoman.
Et l'Empire ottoman.
La Turquie. La Turquie dont on parle maintenant, il y avait une Turquie en Turquie et une Turquie en Europe.
En Europe, oui. Donc, la Turquie, avec le traité de Versailles, enfin, ils sont repartis en Asie, c'est tout.
Voilà, ça vient donc... Donc, vous ouvrez la porte aux autres traités.
Ah voilà, oui,
les autres
vrai.
Traités dont il nous faut parler un peu aussi... Pour comprendre, parce que Gisèle, vous avez ouvert la porte aussi sur l'Europe centrale.
C'est ça, oui.
Et ce sont les traités qu'on appelait les traités de la banlieue parisienne.
Banlieue parisienne, oui, c'est ça, bah oui.
Alors, dites-vous voir, qu'est-ce que nous avons comme traité ?
Le traité de Saint-Germain.
Alors, Saint-Germain-en-Laye.
Oui, c'est le 10 septembre 1919.
Voilà, mi-septembre 19.
Donc ça concerne l'Autriche, là.
L'Autriche. On a signé le 28 juin 19. Pour le traité de Versailles,
oui.
mais après, il reste encore toute l'Europe centrale.
C'est ça qu'il faut négocier.
Voilà. Alors là, c'est l'Autriche, et la réduction de l'Autriche, ce n'est plus l'Autriche-Hongrie, et interdiction de toute alliance entre l'Autriche et l'Allemagne. C'est ce que Hitler fera plus tard avec l'Anschluss.
C'est ça, l'Anschluss.
La Grande Allemagne et l'Autriche.
Voilà, c'est ça. Rejoint à nouveau. Voilà. C'est reparti, oui.
Et c'est reparti. Autre traité.
Le traité de Neuilly-sur-Seine, le 27 novembre 1919.
Tout à fait.
Là, ça concerne la Bulgarie.
Oui.
Alors là, la Bulgarie, elle perd une partie de la Thrace.
Elle est réduite.
Et de la Macédoine.
Macédoine, du Nord, oui. Elle doit payer des réparations aux Alliés.
C'est ça, oui.
Et on discute encore, hein, voyez. L'année 19 s'écoule, mais ce n'est pas fini, car il y a encore d'autres traités.
Le traité de Trianon.
Trianon.
4 juin 1920.
Nous sommes en 1920.
Oui, là, ça concerne le royaume de Hongrie.
Et oui, le royaume de Hongrie qui est coupé, royaume de l'Autriche-Hongrie, l'Autriche, c'est fait.
C'est fait.
Maintenant, l'Hongrie.
Voilà.
Alors, le royaume de Hongrie disparaît.
Ah oui.
Mais il donne naissance à
des petits États.
Oui, une Hongrie nouvelle.
C'est ça.
Et on crée la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie.
Voilà.
Ce qui n'est plus ça maintenant.
Non, c'est à nouveau, c'est plus ça, pas du tout.
La Tchéquie, etc., etc. On a fini ? Non, il y a le dernier, c'est pas
traité
le plus...
de Sèvres.
Traité de Sèvres.
Le 10 août 1920. Et là, ça concerne la Turquie, l'Empire ottoman.
L'Empire ottoman. Là, ce n'est pas une mince affaire. Alors, il est ramené, pour l'essentiel, à la seule Asie mineure,
c'est
donc
ça,
on
ouais.
quitte l'Europe. Elle perd des territoires arabes de l'Empire. Et ces territoires vont devenir des mandats
de la Société
des Nations. Et donc, la France hérite de la Syrie et du Liban,
voilà.
dont on parle encore aujourd'hui. La Grande-Bretagne, elle hérite de l'Irak.
Avec son pétrole.
Il y avait du pétrole déjà. Et oui, il faut bien rouler. Et oui, et puis aussi de la Transjordanie.
D'accord.
Et la Turquie doit accepter, sur ses marges, oui, une Arménie indépendante, le peuple arménien.
C'est tout. Et le Kurdistan, ça recommence.
Et voilà.
Autonome. Et ils n'ont pas respecté ça.
Non. Et elle laisse au royaume de Grèce la Thrace orientale et la région de Smyrne, qui est une très belle ville. Et l'armée ottomane est dissoute. Tout ça, c'est la Turquie. Les Turcs étaient alliés avec l'Allemagne depuis longtemps.
C'est ça.
Ils avaient des... Et oui, le chemin de fer.
Oui.
Les chemins de fer, hein, Berlin, Bagdad, et toute cette histoire. Et l'Allemagne, encore maintenant, avait toujours eu des accords commerciaux, militaires, n'en parlons pas, séculaires, parce que la Prusse avait toujours été attirée par la position charnière
De la Turquie, bien évidemment.
Qui est entre les deux. Méditerranée, et puis les autres mers, et puis l'Orient, le Proche-Orient.
C'est ça.
Et on a l'impression de parler de quelque chose qu'on a entendu récemment.
C'est vrai.
La Turquie est toujours là. Et l'Allemagne a toujours... La Prusse avait toujours entraîné l'armée turque.
Ah oui, c'est eux qui les entraînaient.
Les
oui.
officiers. Dans leur cursus, les officiers prussiens...
Ils devaient
passer 4 ou 5 années comme instructeurs
en Turquie.
Ils allaient à l'université aussi pour se pour se former, se cultiver à l'université ottomane. Mmh. Il y avait des accords universitaires entre les Prussiens et les Turcs aussi. Donc c'était à plusieurs niveaux, ce n'était pas que militaire, économique, oui. Et tout. Ah, oui. Et souvent, l'Allemagne, je me souviens avoir vu dans beaucoup de bureaux de tabac ou des épiceries ou d'autres magasins, il y avait marqué, il le mettait en anglais, « buy Turkish », acheter turc.
Mais d'ailleurs, en Allemagne, il y a eu beaucoup d'immigration turque.
Il y en a beaucoup. Oui. Et oui, c'est...
Parce qu'ils étaient liés, quand même.
Ils étaient liés. Mmh. Et chez Mercedes, il y avait beaucoup de Turcs qui travaillaient
là-bas. Mmh.
Beaucoup de Turcs. Et non, il n'y a pas seulement chez Mercedes, BMW. Moi, j'ai vu beaucoup de Turcs chez BMW. Et ils avaient, à l'intérieur de l'usine, chez BMW, les Allemands, les Bavarois, on va dire, puisque c'est des Bavarois,
c'est le Bavois.
Mmh. Avaient reconstitué un village turc. Donc, ils avaient une cantine pour eux.
Oui.
Ils avaient une cantine, les sanitaires étaient à la turque.
Oui, bien évidemment.
Il y avait une bibliothèque, une cantine.
Oui.
Et il y avait aussi, pour le culte religieux, il y avait ce qu'il fallait aussi à l'intérieur de l'usine BMW. Ah oui, oui. Comme ça, ça faisait partie de la civilisation.
D'accord.
Les Bavarois côtoyaient les Turcs, qui étaient de très bons chefs de rang ou chefs d'atelier aussi.
Oui, chef oui ils savaient bien travailler en fait.
Ouais, oui. C'était deux, oui. Et ils étaient forts tous les deux, quoi. Forts comme un Turc, voilà.
C'est ça, voilà.
Donc cette Grèce, elle a joué un petit rôle. Il y a le royaume de Grèce, on retrouve quand même la Grèce un peu. Mais le premier vaincu va ouvrir la voie à une révision.
C'est
avec Mustapha Kemal.
C'est là, voilà.
Il trouve que le traité est trop sévère pour
c'est
eux.
C'est ça. Et donc il obtient un accord.
On obtient un accord. Donc le traité de Versailles va tomber dans le lac Léman, puisque c'est le traité de Lausanne
qui va être
du 24 juillet 23. Donc ça a pris du temps. Qui est plus favorable. Et Smyrne va être une ville turque.
Ça, voilà.
Ville commerciale, c'est un port. Ils exportent du tabac. Attention, il ne faut pas fumer, c'est le mois sans tabac. Mais enfin, il faut faire du business. Hein. Et des figues. Ils sont spécialistes.
Ah oui.
Beaucoup de figues.
C'est vrai.
Les figues de Smyrne.
Et les raisins aussi.
Les raisins. Mm-hmm. Des raisins. Eh bien, oui. Donc, ces quatre traités, mm-hmm. eh bien, ils sont intéressants pour aujourd'hui, pour 2019. Car qu'est-ce qu'on retrouve ? Eh bien, on retrouve l'Europe centrale. On retrouve l'Autriche, qui est quand même au centre de l'Europe,
oui.
Et qui est un pays européen. On retrouve la Bulgarie.
Oui.
La Bulgarie, la Thrace, la Macédoine. Qui dit Macédoine dit Albanie. Ce sont tous des pays qui, de nos jours, voudraient regagner
l'Europe. Ils voudraient être en Europe.
En Europe. Mmh. Donc on voit qu'ils ont une histoire très ballottée, très difficile. La Hongrie, on en parle de la Hongrie maintenant. Hein, au centre de
et
l'Europe. Et oui, et donc, ça, vous voyez, la Tchécoslovaquie, maintenant, il y a la Tchéquie, il y a la Yougoslavie, c'est parti aussi.
Il n'y en a plus, de Yougoslavie.
Et la symbolique du mur de Berlin, le 9 novembre, il y a 30 ans de ça, déjà.
Oui.
Hein, deux Allemagnes qui ne faisaient qu'une. Oh, le mur de Berlin est toujours dans la tête de beaucoup, encore, quand même.
Oui, je crois que les Allemands de l'Est, ils ne sont encore pas bien guéris.
Non. Ils aiment bien être cadrés. Alors, les grands-parents, ils ont eu le nazisme.
C'est
après,
ça.
Ils ont eu le communisme. Et maintenant, la démocratie, ils ne savent pas ce que c'est. Et voilà. Donc, ce n'est pas facile. Et le traité de Sèvres, la Turquie, elle est sur la scène internationale de plus en plus maintenant.
Ben oui.
Et oui. Et Mustapha Kemal a voulu moderniser, beaucoup plus clair.
La Turquie en plus, parce qu'il y a les Kurdistans aussi. Donc
Kurdistan.
C'est ça, voilà.
Comme quoi, on parle de 2019, on peut dire.
C'est pratiquement la même configuration.
C'est parfait. C'est compliqué. On va essayer de le rendre, on espère le rendre assez clair.
Oui, parce qu'ils ont quand même créé, je crois que c'était Wilson qui voulait créer des petits États un petit peu particuliers. Enfin, c'était presque des États croupions.
C'est ça, ils voulaient créer, ils voyaient, c'était on va dire le point de vue Wilson plutôt que le point de vue américain.
Voilà.
Parce qu'après, le traité ne va pas être ratifié par le Sénat américain.
Ah non, ah oui.
Ils ne vont pas vouloir, les Américains. C'était de Wilson d'abord.
Ah oui.
Et donc, on n'aura pas, même si Wilson dit qu'on protégera la France contre un renouveau allemand, nous arriverons. Non, parce que ça ne marchera pas, puisque le Sénat va refuser d'approuver le traité. Donc, on laisse une France encore plus vulnérable. Les Anglais ne viendront pas. Parce qu'ils craignent notre impérialisme, notre force, parfois notre arrogance.
Oui, et puis on a des problèmes avec les colonies.
Et puis on a les colonies, voilà. Donc les Anglais, pourvu qu'ils fassent du commerce.
C'est ça,
du business, pourvu qu'on les laisse tranquilles, parce que ce sont des insulaires depuis toujours, et ils le sont encore aujourd'hui.
Pire que jamais.
Oui, donc sans dire que l'Europe... L'histoire tourne quand même.
Elle se renouvelle.
L'histoire se renouvelle, et c'est pas commode à suivre, mais on s'aperçoit que l'histoire, c'est un éternel recommencement. Oui. On souhaite se tromper.
Espérons-le.
Alors... on avait dit que Clémenceau était intransigeant. Il défendait son pays, lui.
C'est ça, oui.
C'était un rude personnage.
Oui, oui.
Il était intransigeant et il ne voulait pas faire de compromis.
Ah non.
Mais il s'est trouvé face...
aux Américains, aux Anglais.
Qui étaient
plus souples avec l'Allemagne.
Qui étaient plus souples, oui. Ce sont des Anglo-Saxons. Nous, on est des Latins.
Puis en plus ça s'était passé chez nous, donc c'est pour ça qu'il était
intransigeant, voilà. Parce qu'il défendait le pays.
Voilà.
Parce qu'en face, à côté, il connaissait nos chers voisins.
Voilà.
Eh ben oui, et Foch, il a perdu, mais Clémenceau ne l'a plus soutenu, car il a compris qu'il fallait, faire preuve de souplesse.
Un peu plus de souplesse.
Avec nos grands alliés.
Mm.
Sinon, on se serait buté après.
C'est ça.
On a eu bien besoin d'eux après, plus tard.
Bien sûr.
Alors, c'est une légende tenace, Clémenceau, intransigeant, un axe de sa diplomatie. Mais cela, il suivait le conseil de son ministre du Commerce, un certain Étienne Clémentel, que personne ne connaît, mais qui avait prévu de maintenir l'organisation économique interalliée bâtie pendant le conflit. Il pensait, lui, à une transition plus douce, l'économiste.
Oui, c'est ça. Oui.
Parce que pendant la guerre, l'économie française avait souffert. Et ça permettait, cette souplesse permettait une souplesse vers la paix. Et même cette attitude, on voyait déjà, Clémenceau voyait quand même loin et il pensait à plus tard. Donc ayant besoin de l'Atlantique, il voulait quand même composer avec les Américains, les Anglais,
oui,
surtout
les Américains. Il fallait qu'il les garde auprès de lui.
Donc le tigre se calmait, grognait beaucoup moins.
C'est là.
Et oui. Et puis, il savait que la guerre avait été gagnée parce qu'on avait eu, de l'aide. L'aide.
Mm-hmm.
On avait eu presque 2 millions d'Américains qui étaient venus débarquer chez nous. On avait eu de l'argent aussi. Les Anglais étaient venus. Et donc, il fallait faire des concessions.
Ouais. Les Allemands, ils vont payer comment après?
Alors, finalement, ça ne sera pas tellement payé, les 500.
C'est ça, voilà.
Ça ne sera pas payé. Ils ne pourront pas. Et puis, il faudra les ménager. Et puis, il y a toujours la crainte du bolchevisme.
C'est ça.
La crainte du bolchevisme. L'Allemagne qui va vivre cette République de Weimar, mais ce n'est pas bien son truc, on va dire. Et le passé est là. On a fait 4 ans de guerre mondiale. On a dû partir à cause de l'armistice. Les Américains sont loin. Nous... Donc, ce sont les années d'entre-deux-guerres. Mais il ne faut pas s'étonner qu'en 1930, ça commence déjà à bouger, et qu'en 1933, Hitler est amené...
Est arrivé au pouvoir.
Plus la crise économique de 1929.
C'est ça. On a eu le contre-coup, nous
le
aussi.
Le contre-coup. Mmh. La belle Amérique, en 1929, il y a le crack économique.
Le crack boursier.
Et ça revient chez nous un an ou deux ans après.
Toujours,
c'est comme ça. Et alors, Hitler est arrivé, on connaît la suite.
Oui.
Et là, il va ressortir les archives bien chaudes.
C'est ça.
Il va ressortir le fameux diktat.
Du traité de Versailles.
Il faut déchirer.
Oui, voilà.
Alors bien sûr, pour lutter contre le chômage et tout, On voudra que le peuple allemand ait chacun une Volkswagen et du beurre.
Voilà.
Mais après, ça sera plutôt une Volkswagen et un fusil.
Oui.
Pas facile. Et Lloyd George, lui, il est dans cette situation. Lui, il veut quand même que la flotte allemande, là, c'est le marin, hein, c'est l'anglais, la mer avant tout. Il veut que la flotte allemande, elle va se saborder, la flotte allemande, la Scapa-Flau. Et ensuite, Wilson regarde tout ce monde européen qui s'agite beaucoup. Et les souffrances, déjà qu'on a, l'Europe a enduré d'énormes souffrances pendant 4 ans, on en a encore d'autres, mais qui sont difficiles, car il y a l'après-la-guerre.
Il y a les problèmes économiques après qui se présentent après la guerre,
Et puis il y a aussi les problèmes humains.
C'est ça.
Et le deuil, etc.
Il faut régler le deuil, oui.
Alors Clémenceau, pour finir, il souhaitait des garanties. Bon, bien sûr, on a le retour de l'Alsace-Moselle dans la frontière de 1814. Il pensait à annexer la Sarre et au détachement de la rive gauche du Rhin, mais il s'est aperçu qu'avec nos chers amis anglais et américains,
c'était pas possible.
Il fallait ranger ses projets dans les cartons. Et le premier ministre britannique ne voulait pas discuter sur la question rhénane. Ils n'étaient pas prêts à faire des concessions. Ils se protégeaient le pays.
En plus, eux, ils n'étaient pas trop concernés.
Non,
parce qu'ils n'avaient pas de frontières. C'est ça.
Ils avaient la mer du Nord.
Ils étaient complètement isolés. Donc, ça ne les concernait pas trop.
Ce qu'on peut dire en contrepartie, c'est que les compromis rhénan et sarrois ont pu satisfaire Clémenceau.
Un peu.
Celui-ci, il obtenait une possibilité d'action dans ces régions stratégiques pour 15 ans. Donc, c'est l'occupation militaire pour la rive gauche du Rhin. Et pour la Sarre, un statut international avec la possession des mines. Bon, c'était l'autre consolation.
Oui.
Ainsi qu'un pacte d'alliance avec les puissances anglo-saxonnes en camp d'attaque allemande. Voilà, ils sont réalistes. Mais les grands vainqueurs n'avaient cependant pas réussi à régler tous les problèmes. C'était impossible. On a vu les sommes faramineuses.
Oui.
Et puis, attaquer le peuple allemand, ou si chaque Allemand s'est senti attaqué, humilié, de voir
Ils l'ont pris personnellement, oui, c'est ça qui est curieux.
Les armées étrangères, Bad Kreuznach, c'était en zone française, il y avait les troupes françaises. Donc Mayence et tout, ça faisait drôle pour eux. Il y avait les Américains qui passaient. Bref, c'était l'occupation. Alors, comme vous l'avez dit, 28 juin 1919, c'est signé. Dans la Galerie des Glaces, avec ses 440 articles,
ça
a duré. Et on parle plus que français. Louis XIV a dû se retourner dans sa tombe, mais on parle anglais. Parce que c'est le fruit, en même temps, de tous ces compromis. On parlait aussi du deuil, qu'il y a le humain. Vous avez, en guise de conclusion, et nous remercierons Thomas pour la technique, et avant de repartir en musique avec Voltaire et Candide, ça sera un peu de joie.
Voilà, un peu d'animation.
Qu'est-ce que nous dit le deuil ?
Reste le deuil. Deuil de masse inédit qu'il va falloir apprendre à gérer. Les cimetières militaires à perte de vue où l'on reste camarade dans la mort. L'invention du soldat inconnu, héros paradoxal des démocraties. Les ossuaires où s'enchevêtrent pêle-mêle vainqueurs et vaincus. Les familles qui ne se résignent pas. Deuil sans fin qui explique, 100 ans plus tard, la popularité d'une commémoration dont la force, comme toujours, est venue d'en bas. Ce sont les artistes et les romanciers qui nous le disent le mieux. Nous ne sommes pas tout à fait sortis de cette guerre-là.
Et je voudrais ajouter aussi que, je reviens aux Anglais, c'est la mode ces temps-ci, il ne faut pas oublier l'économiste John Maynard Keynes qui avait écrit un livre sur les conséquences économiques de la paix. Et avec cet ouvrage qui est polémique, qui date de fin d'année 1919 et son second bouquin, eh bien, il annonce un peu tous les désordres économiques qui vont
à venir.
Et il n'était pas bien contre des sanctions qui étaient vraiment trop sévères.
C'est ça, voilà.
Il voulait ménager, pas la chèvre et le fou, mais ménager l'Allemagne.
Oui, parce que c'est pas en les humiliant que ça allait arranger les choses, c'est certain, oui.
Et lui voulait quand même, pas passer l'éponge, mais quand même qu'on pense au présent et surtout au futur.
Ben, si on voulait faire une Europe après, c'était quand même plus logique d'être un peu à l'unisson quand même.
Tout à fait. Et donc on peut tirer comme la conclusion qu'il y a un embryon d'Europe avec la SDN.
Voilà.
Société des Nations, le siège était à Genève.
Qui deviendra les Nations Unies.
Ça reviendra les Nations Unies. Donc ce traité un peu chaotique, ce traité de paix difficile, il y a eu quand même cet embryon d'Europe et, et d'ONU, comme vous avez dit, même si l'Allemagne ensuite claquera la porte,
oui.
Les Américains verront ça de loin. Ils craindront peut-être une Europe trop organisée.
C'est ça, ils ont peur.
Ils ont peur un peu.
Même encore.
C'est ce que je voulais dire. Donc, l'histoire ne se refait pas et c'est toujours un peu la même chose. Merci, Gisèle, pour le gros travail que vous avez fait. Et maintenant, on va partir, on va aller voir Voltaire. À Voltaire, on est à Ferney-Voltaire.
C'est Ferney-Voltaire.
On est près de Genève.
Oui, c'est
vrai. Voilà, on retrouve la SDN. Et le lac Léman, et puis Lausanne, la Turquie, bref. Et à bientôt. Bonne journée. Merci. Au revoir.
Au revoir.